Oui, c'est mieux. Oui, je peux. Super. Bonsoir et merci à ceux qui sont restés et puis aux nouveaux qui nous ont rejoints. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'accueillir Bernard Andrieux. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plusieurs occasions qui avaient été manquées. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous qui compte pour certains ici qui travaillent sur le corps ou quasiment tous, et pour d'autres qui vous ont lu énormément. Voilà, je vous présente en quelques mots. Professeur de philosophie à... On dit encore, j'ai appris ce midi que ça avait changé, mais je peux dire Descartes encore, à Paris Descartes pour quelques mois. Et nombreux ouvrages publié, encore un nouveau que gentiment vous nous avez donné ce midi chez Vrin, que je vous laisserai découvrir. Et justement, je vais terminer là-dessus et je vais vous laisser la parole sur ce sujet qu'on avait un peu échangé, sur lequel on avait échangé ensemble, qui correspond à la thématique du jour, vers un corps sans frontières, qui était un peu un pied de nez à la thématique d'aujourd'hui. Pour dire qu'il y a une séance de dédicace là-haut, tout à l'heure. La librairie La Belle Aventure est partenaire de la venue de Bernard Andrieux sur ce moment partagé. Voilà, merci vraiment, et on est ravis de vous entendre.
Merci beaucoup. Je prends un micro. Je ne peux pas l'avoir à la main. C'est préfère comme ça. Merci de votre invitation. Ça fait il y a 30 ans exactement, presque jour pour jour, j'étais à Poitiers et je venais d'avoir réussi le concours de philosophie et j'ai fait mon stage avec Jean-Claude Bourdin. Et qui m'a beaucoup aidé. Et c'était donc il y a 30 ans. Et donc je vais essayer de résumer ces 30 ans dans une trentaine de diapos. Donc je plaisante. Mais en tout cas, vous dire que, en fait, c'est plutôt vous qui êtes vraiment des experts dans la question, comme on va le voir. Moi, j'essaie de rester dans mon domaine de philosophie, même si je passe ma vie à lire tous vos travaux. Et sachez que c'est vraiment eux qui viennent enrichir notre réflexion. Que nous, on ne fait pas grand-chose, on fait que réfléchir sur le travail des autres et essayer de présenter quelques idées que je vais présenter. Donc, comme l'a précisé Lydie tout à l'heure, par provocation, on a renversé le titre, puisque l'idée, c'était de parler des frontières. Et moi, justement, je vais vous parler plutôt parce que en 88, en fait, quand j'ai commencé à travailler, je finissais un DEA de littérature comparée à Bordeaux sur le corps malade dans la recherche du temps perdu. De Marcel Proust, que je n'ai pas encore vraiment publié. Je suis en train de le retravailler. Et en fait, c'était déjà au cœur de la question de la frontière, puisque l'idée, c'est quelle est l'influence finalement du corps vivant sur le corps vécu, hein, quelle est l'influence de la maladie sur la perception qu'on peut avoir de soi-même, des autres, du monde, etc. Donc, un certain nombre de gens que je vais présenter, qui se reconnaîtront dans la salle ou d'autres personnes, on a lancé une collection, une modeste collection qui s'appelle Épistémologie du corps, aux presses universitaires de Lorraine, dans laquelle on a publié un certain nombre d'ouvrages. Ça, c'est un des derniers ouvrages qui peut faire écho à l'ouvrage de Frédéric et de Marie-Josée. C'est vraiment une question, justement, cette question de la meurtrissure, de la modification qui vient justement entamer le concept de frontière, puisque là, on a plein d'éléments, bien évidemment, sur l'enveloppe, sur la déchirure, la difficulté à maintenir quelque chose de l'ordre d'une unité, avec un thème que Philippe Lyotard a bien développé dans son HDR, qui est la question, la question des modifications corporelles, qui pose l'idée, le thème un peu constant de mon exposé, c'est qu'aujourd'hui, parler d'une théorie de la substance à propos du corps, ça n'a absolument aucun sens, puisque le corps, par lui-même, est perméable, il est poreux, il est en interaction, il est écologiquement modifié par sa relation avec le milieu. Et même si nous n'en percevons pas, il est source de modification. Ben, je lisais tout à l'heure, en attendant Lydie, les 60 premières pages de Armaud Rosa sur résonance, et voilà que les sociologues redécouvrent la phénoménologie de Merleau-Ponty, hein, ce qui est un scoop hein, quand même. Voilà des gens qui disent, hein, qui thématisent le terme de la résonance, de l'interaction, de l'écologisation, des thématiques quand même que les écologues ou les géographes ou beaucoup de gens à SHS ont beaucoup travaillé cette question-là. Donc il est quand même intéressant de voir que finalement, alors que nous sommes nombreux à travailler sur ces questions-là, on met en avant au plan éditorial, finalement, dans des maisons prestigieuses, des théories sociales. Alors que finalement, nous, en sciences humaines, ça fait quand même assez longtemps qu'on travaille sur cette question, ces questions écologiques. On a eu tout à l'heure un exposé tout à fait remarquable, justement, sur la question de la danse. Hein. Et ce livre, justement, sur les corps incroyables, peut être rapproché du travail de Stéphane, hein, Stéphane Eas, sur la question, justement, des corps extraordinaires. Et ce que tu as montré tout à l'heure dans ton exposé, c'est justement le fait que la question, justement, de la frontière entre... une expertise hein, et le caractère amateur hein, qui va être produit dans ces nouveaux corps interroge justement sur la question de la créativité, la question de la source. Voilà, donc vous voyez, je présente les travaux des conférenciers absents ou présents, mais je veux dire, tout ça est déjà bien traité dans le programme. Et on l'a vu tout à l'heure hein, dans cette dernière table ronde tout à fait effroyable, où justement la question de l'ouverture du corps pose la question aussi de la maltraitance, de comment je vais pouvoir respecter cette enveloppe, au nom de quoi je vais la respecter. Et donc il y a vraiment tout un intérêt justement à penser la frontière, et ce que je vais essayer de démontrer ce soir, en essayant d'articuler une approche transdisciplinaire et pas simplement une approche strictement disciplinaire. Alors, pour vous repréciser un peu le cadre de mon travail, même si je ne vais pas vous ennuyer avec... Les philosophes ont toujours le souci de construire des systèmes pour se justifier, se dire « Mon Dieu, je vais avoir 60 ans, qu'est-ce que j'ai fait de sérieux dans mon existence ?» Et en réalité... on a travaillé sur plusieurs niveaux. Hein. Le premier niveau que vous connaissez tous, c'est la question épistémologique, et qui pose la question de la frontière et du mouvement des paradigmes. Ouais, c'est-à-dire que ce qui caractérise notre génération, c'est que quand on a commencé à travailler sur le corps, on nous a dit c'est pas un objet, hein, et en plus c'est pas une discipline. Hein, donc qu'est-ce qu'on va faire de vous ? Hein, il va falloir que vous fassiez des choses un peu sérieuses. Hein. Je me rappelle mon directeur d'HDR qui me disait enfin Bernard, fais quelque chose de sérieux, fais un travail d'histoire. Hein, voilà, ça c'est sérieux. Donc j'ai fait l'histoire des prématurés. Et là on m'a dit ah oui là c'est vraiment voilà. Donc on est déjà confronté à un problème avec le corps, c'est que c'est un objet épistémologique complexe. J'avais appelé ça le corps dispersé en 93. Hein, c'était ma première thèse. Et je reste sur cette thèse, à savoir qu'il a été dispersé dans des disciplines extrêmement différentes, et que chacune prétend en faire la synthèse, hein, et à produire cette synthèse à partir de son paradigme, hein, qu'il s'agisse de la phénoménologie, de la psychanalyse, de la sociologie, etc. Chacun dit, bah, écoutez, moi je suis plus synthétique que les autres, etc. Dans ma génération, dans les années 80, ça n'a pas été possible, ça. Parce que nous, on a rencontré les sciences cognitives, les neurosciences, la biologie du développement, etc. Et donc, on ne pouvait plus penser simplement la phénoménologie sans le mettre en rapport plus directement avec ce qui était en train de se passer. Deuxième niveau, essayer de faire l'inventaire de ce qu'on a appelé les somaticiens. Hein, donc ça, c'est une encyclopédie qu'on ne verra jamais la fin hein, avec nos collègues brésiliens, qui est une encyclopédie en ligne, on a commencé à lancer, qui consiste à dire qu'il faut faire l'inventaire, non seulement des théoriciens, mais aussi des techniciens, des praticiens, des ingénieurs, des danseurs, etc. Des gens qui ont une pratique somatique, et à partir de cette pratique somatique, ils ont inventé des modèles, des techniques, des dessins, etc. Et là, la question de la frontière disciplinaire en prend un coup aussi. Parce qu'on s'aperçoit que, si je prends le cas d'Alexander, le thérapeute Alexander, eh bien, on voit déjà, si on étudie le curriculum, donc c'est un encyclopédie avec des petites fiches centrées sur ça, très modestes, mais qui permet de s'apercevoir que Feldenkrais, Alexander, tous ces gens-là, sont des gens finalement qui de manière idiosyncrasique, on construit finalement des théories, des modèles à partir des problèmes qu'ils ont rencontrés avec leur propre corps. Et donc, comme je l'ai expliqué dans le corps du chercheur, ça pose beaucoup de problèmes sur savoir qu'est-ce que c'est que la frontière épistémologique entre d'un côté la pratique corporelle et de l'autre côté l'inventivité théorique. C'est-à-dire qu'avec le corps, on est très souvent confronté sur un entre-deux. Qui pose le problème non seulement, comme dit Nietzsche, de l'idiosyncrasie, mais aussi de la capacité à pouvoir produire quelque chose de nouveau. Troisième aspect, donc on en parlait tout à l'heure justement sur la question de l'écologie. Donc nous, on a abordé la question de l'écologie à partir de ce qu'on appelle l'écologie corporelle, c'est-à-dire l'idée que là aussi, le corps, mais bon, je viens de le lire dans le livre du grand sociologue allemand, Rosa, il paraît que le corps a une relation avec le monde. Là, c'est un scoop assez important ce soir, je pense qu'il faut que vous mettiez sérieusement au travail. Mais enfin, Merleau-Ponty, Winnicott, Melanie Klein, Husserl lui-même... etc. Enfin, tous ces gens-là, sans parler du pragmatisme, de Thoreau, de Arne Naess, enfin, etc. Tous ces gens-là avaient déjà dit ça. Donc après, la question qui se pose à nous, c'est quel est l'impact du milieu dans le corps. C'est ça l'écologie corporelle. C'est quel est cet impact. Alors j'ai fait une série en reprenant la série de Bachelard, c'est-à-dire l'impact des éléments dans le corps. Et puis aussi, on s'intéresse sur l'impact dans la créativité, c'est-à-dire comment cette relation écologique peut faire produire quelque chose. Et enfin, donc, dernier point que j'aborderai très peu ce soir, qui est finalement le but qu'on a développé avec François, qui est la question de essayer de décrire cette mobilité interne du corps vivant dans ce qu'on a appelé une immersiologie. Donc l'immersiologie, c'est un terme, l'immersion, c'est un terme que Jules Verne utilise dans L'île mystérieuse, lorsqu'il raconte l'immersion de l'île, de la mer. Ça veut dire le mouvement involontaire. Remontera-t-il à la surface de la claire conscience ce souvenir ancien ? Enfin, Proust a décrit ça très bien à propos du souvenir. Ce qui involontairement remonte à la surface sans le travail de la conscience. Donc certains l'ont appelé l'inconscient, je crois, certains Freud, enfin, qui a développé une théorie autour de la question de la psychanalyse. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement le contenu psychique, ce qui nous intéresse, c'est les processus d'accès. C'est-à-dire comment ceux qui émergent accèdent à la conscience, est-ce qu'ils accèdent de manière involontaire, et finalement, la perception que nous avons de nous-mêmes correspond-elle aux informations que notre corps vivant donne, nous donne sur nous-mêmes. En réalité, il y a un écart ontologique et aussi méthodologique. Ça va, c'est clair. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet. Alors là, attention, hein, j'ai thématisé, parce que Lydie était là, elle avait révisé le plan, elle m'a dit, attention, il faut faire des parties, des sous-titres, etc. Donc j'ai fait, premièrement, le corps aux frontières. Donc, je vais encore ouvrir davantage la perspective en vous disant qu'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des corps aux frontières. Hein, c'est-à-dire que la question des déplacements et des migrations, hein, c'est-à-dire que nous avons des corps qui viennent à nos frontières, qui viennent bousculer même la notion même de frontières. Nous avons des identités hybrides, hein, on va en parler, qui posent la question du métissage. J'aborderai aussi la question que j'ai appelée de l'agenrement, c'est-à-dire la question de la frontière, hein, entre le sexe et le genre, et le fait que les gens aujourd'hui sont en capacité de s'agenrer, hein, de choisir leur propre genre. La question du terrorisme, hein, qui vient poser, je sors le début avril, un livre qui a été refusé 3 fois, on comprend pourquoi, puisqu'il s'appelle Le corps du terroriste. Hein, c'est plus intéressant de travailler sur le corps des victimes, hein, bien évidemment, mais le corps du terroriste pose un véritable problème, hein, dans la rupture de frontières, hein, finalement, entre l'espace public, l'espace privé, la torture, bien évidemment, la grève de la faim, ou alors, bien évidemment, la GPA, la PMA, la PMA. Donc, je prends quelques exemples pour ça. Alors, une des frontières qui pose la question de ça, c'est qu'aujourd'hui, bien évidemment, dans une lecture, on va dire, foucauldienne et post-foucauldienne, en tout cas d'un certain Foucault, on s'interroge beaucoup, bien évidemment, sur le fait de restaurer absolument des frontières ou de contrôler les frontières par les data, hein, ou par la biométrie, hein, c'est-à-dire par l'informatisation du corps, par la question des empreintes et des identifiants, hein, qui vont permettre finalement de naturaliser cette question de la frontière. Et aussi par, n'hésitons pas à le dire, hein, je m'adresse à certains médecins légistes de la salle, ou voire des anthropologues, par l'identification, hein, la sélection des populations, puisque des questions d'âge, hein, des questions de curriculum, des questions de circulation de data et de biologique se posent. Tu parlais tout à l'heure de la question du corps ambulatoire. Hein, voilà, par exemple, un colloque hein, qui va avoir lieu autour de la cybercorporéité, où ce qu'on avait, nous, appelé la question des avatars du corps pose la question de, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une subjectivité nomade, hein, à partir du moment où ben, je suis cyborg corporel, c'est-à-dire je sors de la frontière physique pour m'externaliser via le réseau. Un avatar qui finalement me donne certes une existence numérique, mais produit sinon un dédoublement, du moins une séparation entre la frontière physique qui existe toujours, c'est-à-dire je suis toujours géolocalisé quelque part, et en même temps je suis dans un autre espace virtuel dans lequel je peux rencontrer des gens qui eux-mêmes sont des pseudos, des avatars sans frontières. Et donc là se nourrit une certaine intercorporéité qui n'est plus du tout liée au territoire, qui n'est plus du tout liée à la limitation physique du corps, à la forme physique du corps, au sexe du corps. Hein, donc là, on est confronté à une forme de réduction, justement, ou de lutte contre la frontière physique. Alors, justement, j'évoquais tout à l'heure la journée qui a été faite ex-Marseille autour de la question des corps des migrants, hein, qui n'a pas encore été paru, mais qui a été traité par les anglo-saxons, notamment dans Broken Bodies, sur la question de l'exploitation des corps des migrants, notamment, bien sûr, dans les grandes cultures vivrières, hein, qu'il s'agisse des États-Unis ou en Espagne, notamment, ou en Italie. Et on voit ici que la question qui se pose à la fois de la disparition des corps en mer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des corps qui sont sans frontières parce qu'ils disparaissent au cours précisément du passage d'une frontière à une autre. Hein, donc, il y a un certain nombre de corps qui disparaissent, qu'on ne retrouve pas. Et quant à ceux ensuite qui arrivent effectivement à la frontière, eh bien, on est confronté aux problèmes qu'on voit avec une réactivation politique particulièrement problématique à la veille des européennes, puisqu'on va avoir effectivement un débat entre, d'un côté, ceux qui veulent maintenir l'identité territoriale, la frontière, avec un certain nombre de discours sur l'identité culturelle, on parle pas encore de race, mais je veux dire la religion, enfin, etc., c'est-à-dire une refrontérialisation de l'Italie, de la Hongrie, enfin, etc., etc., d'autres pays. Et puis de l'autre côté, on le voit, par exemple, c'est un débat très, très, très rigolo que nous suivons en ce moment avec mon fils sur la question de la frontière entre le Brexit et l'Europe, hein, en Irlande. Hein, c'est-à-dire que ça, c'est une frontière, ça va être quelque chose. Hein, quand on va commencer à faire une frontière sur un pont, hein, en plein Irlande, hein, pour savoir que d'un côté, tu seras européen et de l'autre côté, tu seras britannique, on voit que là, on est vraiment sur le fait que, voilà, est-ce que c'est une frontière symbolique? Est-ce que c'est une frontière politique? Est-ce que c'est le corps lui-même qui porte cette frontière? Voilà. Donc là, il y a un débat vraiment à avoir. Alors, un autre type de frontière auquel on est confronté. Donc j'ai essayé de m'implanter localement, hein, pour trouver le centre local. En fait, il y en a d'autres, alors ne me tombez pas dessus en disant que ce n'est pas le bon centre, tout ça. Mais bien évidemment, on le voit. Bon, l'exemple le plus fameux, c'était l'exemple de Thomas Betty, qui nous avait servi de réflexion aussi sur la question de la frontière. C'est que la question du changement de genre pose beaucoup de questions, puisque finalement on peut changer de genre en gardant son matériel biologique naturel, c'est-à-dire que je peux changer de genre, mais je peux tomber enceinte en ayant l'apparence et les traits de la masculinité. Hein, donc ça pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une transgression de la frontière ou est-ce qu'il y a une redéfinition de la frontière, mais laquelle? Est-ce que c'est la frontière biologique, la frontière symbolique, la frontière sociale? Voilà, donc toutes ces différences entre identité de genre, expression du genre, sexe biologique, etc., font que, bien évidemment, là aussi, la réactivation des extrêmes, hein, qu'on a pu voir au plan social est proportionnelle, hein, justement à cette idée que on peut très bien s'agenrer, hein, sans forcément remettre en cause les frontières. Et ça, on n'a pas vraiment de débat sur ça. Hein, c'est-à-dire, d'un côté, on a des gens qui réclament le maintien des frontières naturelles, biologiques de l'identité. Et de l'autre côté, des gens qui nous disent « mais nous, on veut avoir que des relations symboliques qui seraient culturelles ». Mais en réalité, les choses, quand on les voit de plus près, sont plus complexes. Parce qu'un corps naturel est toujours déjà culturel. Hein, et un corps culturel va continuer à garder, effectivement, des caractéristiques naturelles. Donc là aussi, il y aurait un débat non idéologique à avoir pour essayer de le... Et c'est difficile, parce que quand on va dans les communautés branchées, si on n'appartient pas à une catégorie, on n'a pas le droit vraiment de parler. Hein, donc ça devient très, très compliqué. Alors, porno-terrorismo, hein, de Torres, du groupe espagnol, certaines images peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes, hein, j'ai oublié de le dire. Mais porno-terrorismo... C'est eux qui, à Barcelone, hein, explorent le plus la question des performances, hein, dans la question du transgenre. Mais là aussi, quand vous regardez le type d'éjaculation qui est produit ici sur scène, on voit que là aussi, on va s'appuyer sur les qualités physiques naturelles du corps, hein, pour produire ce type de choses, et que donc ça pose la question de savoir est-ce que vraiment on va par-delà le bien et le mal, hein, comme dit Paul Preciado, ou est-ce que finalement c'est une mise en scène, hein, de la question d'un corps sans frontières, hein, c'est-à-dire est-ce que vraiment il n'y a pas de frontières, ou est-ce que où est-ce qu'on vient les troubler à tel point qu'on va, on veut changer l'expression de ces frontières. Hein. Là aussi, il faudrait, et peut-être on en parlera tout à l'heure, préciser cela. Et par exemple, Paul Preciado s'appelle Paul, hein, après ça s'appelait Béatrice. Hein. Marie-Hélène Boursier s'appelle Sam Boursier, hein, dans les nouvelles éditions de ses ouvrages. J'hésite. Hein. Je me demande si je ne vais pas m'appeler Françoise Andrieux. Pourquoi je ne m'appellerai pas Françoise Andrieux ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me permettrait d'exister en tant que ça ? Qu'est-ce que je dois faire pour changer ça ? Est-ce que je dois arborer voyez, les symboles de genre voilà, est-ce que je dois abandonner des choses qui appartiennent à mon sexe ? Enfin, vous voyez, la question, c'est comment on change de frontière ? Est-ce que c'est parce qu'on appartient à une communauté, parce qu'on a un type de sexualité, parce qu'on change de nom, enfin, etc. On peut remarquer que cette question-là n'est pas abordée. On l'entérine en tant que telle, mais finalement, on n'essaie pas de se poser la question de comment ça fonctionne. Voilà, hein, même exemple chez Buck Angel, hein, où là, c'est pareil, on va garder, on va perturber cette frontière complètement, mais en gardant le corps génétiquement, hein, finalement, et même organiquement féminin, mais on peut quasiment le transformer pour produire quelque chose qui, du point de vue de l'apparence, sera complètement différent. C'est ça le but, c'est que si à partir du moment où vous ne posez plus de frontières, vous créez un trouble perceptif, hein, qui fait que, bien évidemment, vous allez pouvoir être sur la bordure, dans l'entre-deux, passer de l'un à l'autre, hein, etc. Donc ça, c'est à la fois une liberté, bien évidemment, mais du point de vue de l'identité, c'est un mode de subjectivation. Mais du point de vue de l'identification, eh bien, ça veut dire qu'on peut accéder à un troisième, hein, non plus à une logique binaire, hein, mais à une logique du tiers. Et puis, donc, on voit, hein, avec la mondialisation de la cosmétique, hein, et de la question de l'engenrement, on voit apparaître justement ce qu'on appelle aujourd'hui la soft masculinity, hein, c'est-à-dire les hommes qui vont effacer, hein, les traits, hein, précisément de la masculinité pour se féminiser et pour avoir surtout un corps qui est agenré, hein, c'est-à-dire une revendication du fait que eh bien, on va faire disparaître les caractéristiques de la virilisation, hein, pour être dans. Alors, moi, j'aime pas trop la notion de neutre. Hein, je sais pas si ça existe un corps neutre, hein, mais en tout cas une neutralisation, hein, du processus identificatoire, hein, social. Ça, c'est sûr que l'objectif, c'est de produire ce genre de choses. Donc après, bien évidemment. D'autres problèmes se posent, hein, sur le fait que on a un processus mondial, hein, qui est en train de s'instituer en Australie et en Inde, par exemple, où là on a une attribution du troisième genre, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur sa carte d'identité un troisième genre. Donc là on est quand même très en retard. Et puis, bien évidemment, la question des corps aux frontières pose la question de la reconstitution de la frontière. C'est-à-dire que la question du mur, hein, que ce soit la question du mur israélien, du mur hongrois, hein, ou du mur américain, fait que finalement, bon, on sait qu'aux États-Unis, ça reste quand même très théorique, hein, cette question de finir le mur, hein, puisque la question de l'employabilité, hein, dont je parlais tout à l'heure, des corps migrants, hein, fait qu'il faut qu'il y ait quand même une circulation, sinon clandestine, insuffisante, hein, pour faire tourner les différentes économies agricoles du Sud. Mais en tout cas, la question de l'infranchissable, hein, se pose. C'est-à-dire que tous les murs que vous voyez, c'est des murs qui sont, vous voyez, ils sont... ça fait quoi ? Ça fait 2, ça fait 8 mètres ou 10 mètres ? Hein, c'est-à-dire qu'il s'agit de produire des murs qui sont infranchissables, c'est-à-dire qui sont à la fois ferment l'horizon, hein, c'est-à-dire que On n'est plus dans l'existence d'un passage, mais on est vraiment dans le contrôle de la circulation et dans le fait d'empêcher les échanges. Donc ça les empêche plus ou moins, puisque bien sûr il y a toujours des gens qui franchissent ces murs. Mais voilà, le fait de dire qu'il y a des corps aux frontières, ça va réactiver ce qu'on voit à venir, c'est-à-dire la question de jusqu'où est-ce que j'accepte que dans ma population, il y ait effectivement... on va le poser en termes de taux, on va le poser en termes de fréquence, on va le poser en termes de visibilité, etc. Et donc, dans le corps du terroriste, justement, ce qu'on essaie de dire, c'est que un des problèmes que pose le corps du terroriste, c'est aussi ce que Norbert Elias avait bien décrit, c'est-à-dire ce sont les modes de civilité et de déplacement. Hein, c'est-à-dire que nous, on a un corps qui est, entre guillemets, relativement civilisé, lent, procédural, protocolaire, etc. Or là, on voit surgir, et là je lisais les mémoires de Rouillon, hein, je vous recommande de lire, si vous arrivez à dépasser la 30e page, les mémoires de Rouillon comment ils agissaient dès les années 80 sur l'assassinat de Besse. C'est quand même assez intéressant, ça fait froid dans le dos. C'est-à-dire que ce qui caractérise le corps du terroriste, c'est que justement, il va violer cette frontière que Elias s'était forcé de décrire, à savoir que voilà, il y a que Stanley Hall décrit sur la distance de proximité, le respect de la frontière intime, du fait qu'il y a des distances sur lesquelles tu ne vas pas pénétrer. Lui, justement, il va fracturer ça. Il va le fracturer, en plus de manière très rapide, c'est-à-dire sans que nous ayons le temps de réaction, parce que nous ne sommes plus préparés à ça. Nos corps ont intégré complètement l'idée qu'il y a des... à Paris, on voit ça très bien, je m'amuse souvent dans le métro à faire des tests de distance. Je me rapproche un petit peu des gens. Alors là, crac, oh, les gens se redéplacent de 10 cm. Voilà. Donc les frontières, elles sont là. Je veux dire, voilà. Dès que si vous allez plus vite, alors là, immédiatement. Et donc le corps du terroriste, c'est aussi une réflexion sur des gens qui vont effracter cette frontière privée-publique, qui vont bien sûr exercer des violences terribles sur le corps des individus. Et ça pose problème, parce que finalement, les frontières corporelles qu'on a instaurées dans la civilité, dans la socialité, dans le lien social, on s'aperçoit que ça repose sur du symbolique, ça repose sur de l'acceptabilité culturelle. Et que là se pose le problème de la communauté. Et puis donc, je ne vais pas vous embêter avec des images trop difficiles, mais bien évidemment, la question de la torture et des centres de torture et encore tout ce qu'on vient de voir sur la Syrie qui vient de sortir, fait que là aussi, on sait que ce soit du côté syrien ou du côté américain ou d'autres pays qui pratiquent la torture, on voit très bien qu'on continue à nier toute la frontière, alors cette fois-ci personnelle, l'intégrité personnelle des individus. Alors que des études récentes ont montré que c'est plus une façon d'exercer le pouvoir que d'obtenir de la vérité. C'est-à-dire que la question de la violation de la frontière intime, je regardais encore l'autre jour sur Arte ce film effroyable sur le viol des femmes bosniaques par les Serbes. On voit finalement que ces pratiques qui avait très bien été analysé d'ailleurs par nos collègues, j'ai perdu son nom, excuse-moi, sociologue, Naoun Grapp, hein, avait fait un travail très très intéressant sur ça, en montrant justement que l'enjeu de la violation de la frontière intime dans le viol ethnique, hein, était vraiment plutôt lié à des rituels de possession et de soumission transgénérationnelle, de bâtardisation, etc. C'est-à-dire que l'idée, c'était de détruire la frontière non seulement physique, hein, mais psychique, et aussi, bien évidemment, générationnelle. Hein. Puis un petit mot quand même pour Oleg, hein, en grève de la faim, hein, avec la question quand même très problématique par la politique russe, de la question de l'annexion. Hein, c'est-à-dire que, bon, sur l'annexion de l'Ukraine, mais aussi de la Crimée, hein, je veux dire que la question... Alors, quand j'en discute avec mon fils, qui me fait un cours de sciences politiques sérieux, avec carte à l'appui, en faisant péter l'histoire de la Hongrie, de la Russie, etc., il m'explique pourquoi, oui, tu vois, c'est justifié parce qu'ils veulent récupérer des territoires, l'accès à la mer, etc. Bon, OK. Mais on voit que quand même toute cette résistance qui existe de la part d'Oleg et d'autres personnes qui résistent, c'est finalement l'idée que la question de l'Empire, hein, n'a pas disparu. La question de l'Empire n'a pas disparu. Et l'Empire, voilà, il s'arrête où? C'est ça la question, hein, que pose aussi la Hongrie. Hein, parce que ce qui se passe en Hongrie aujourd'hui, que vous regardez ce qu'était la Hongrie avant la guerre et après la guerre, et derrière le discours d'Orban se pose la question de savoir, finalement, question que Hitler avait posée, hein, qui fait que finalement, est-ce que j'ai pas droit à une extension de mon territoire au regard de ce qui serait les ayants droit. Et puis donc, pour terminer cette question du corps aux frontières, la question de la législation, bien sûr, de l'homosexualité dans le monde, du mariage gay, et puis les affiches que nous avons peut-être à Poitiers, vous en avez peut-être moins, mais enfin nous, à Paris, on en a tous les 5 mètres, hein, de ces enfants qui n'auraient qu'un seul parent. Ouais, c'est-à-dire des enfants qui n'auraient pas de père, hein, qui n'auraient qu'une mère, etc. Ce désir de restaurer la frontière hétéro et la frontière patriarcale traditionnelle de la société traditionnelle, c'est quand même très très intéressant de voir que malgré tout ce qui a pu être fait comme déconstruction, comme explication, comme dépénalisation, etc., dans la culture. Dans la culture, dans la réaction culturelle qu'il y a eu. Hein, je veux dire, c'est quand même des millions de gens qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, sont venus reposer la question de la frontière parentale, hein, avec des attributions fonctionnelles, reposant la question des rôles, hein, etc. Je ne suis pas sûr que ça ait totalement disparu. Voilà, c'est ce que disait Godelier. Hein. Moi, je me fie beaucoup à ce que dit Godelier sur cette question-là, en disant que là, en Europe, on est sur des structures, on est sur des structurations qui n'existent pas, par exemple, dans les sociétés qu'il a pu étudier par ailleurs, et où on peut avoir d'autres structurations de la famille. Donc là, il y a vraiment des questions à se poser sur, OK, un corps sans frontières, une famille sans frontières, OK, mais est-ce que c'est pas lié aussi à la manière dont on a construit culturellement cette frontière? Ça va, c'est pas trop pénible, hein. Succession d'exemples. Vous auriez peut-être voulu une conférence avec des définitions, des concepts, etc. Bon, j'ai préféré faire comme ça parce que j'ai pas de définition. Hein, c'est ça l'idée de l'exposé, c'est-à-dire que pour chaque cas, il faudrait s'attabler et puis redéfinir. Hein. Alors, deuxième exemple. On a vu premièrement le corps aux frontières, les corps sans frontières. Alors, ça, ce sont des exemples justement de perturbations intimes, internes, écologiques, pathologiques, hein, du corps. C'est-à-dire que on est dans une période où finalement la question de la sécurité hein, biologique, ou la question de la non-intrusion hein, d'autrui, ou d'éléments pathogènes, ou d'éléments climatiques, hein, est une question qui a disparu de la représentation. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quel typhon peut vous tomber dessus et vous détruire la moitié d'une ville. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment finalement d'impuissance par rapport même au climat. Hein, par rapport à, voilà. Alors, certains s'en plaignent, d'autres s'en réjouissent hein, en disant finalement c'est le retour de la transcendance de la nature, hein, la toute-puissance, etc. Mais ça pose d'énormes problèmes hein, qu'on va essayer d'inventorier. Je tremble hein, qu'une étudiante hein, me ressorte une histoire où en 1986, j'avais mis la main sur la cuisse hein, d'un étudiant ou d'une étudiante. Aujourd'hui, nous sommes à la merci de n'importe quelle dénonciation hein, qui peut être vraie ou mais qui peut être aussi infondée. Hein, c'est-à-dire que la question de MeToo est une vraie question. Hein, c'est une vraie question qui est venue perturber la hiérarchie, le fonctionnement abusif et de pouvoir, hein, d'autorité que certains exercent hein, sur les femmes en particulier. Mais je rappelle que c'est un débat qu'on a déjà eu sur le harcèlement moral hein, à propos des travaux de France Irigoyen. On s'en rappelle, c'était avant, hein, c'était il y a une dizaine d'années hein, qu'on a commencé à poser la question du harcèlement moral. Donc, là, on est confronté au fait qu'une revendication de reconstituer une frontière, hein, c'est-à-dire une revendication, c'est le constat que un certain nombre de comportements violent hein, les règles de civilité, violent proprement au sens propre les corps, établissent des discriminations, ont des jugements sexistes, et donc la question, c'est, je le dénonce, je le dis publiquement, mais comment le traduire en termes de frontières, ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique, du point de vue éthique et du point de vue relationnel ? Le consentement ? Explicite ? Explicite ? Hein ? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un consentement explicite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un consentement explicite ? Je ne renvoie pas au livre de Michael Marzano, mais bon, on a consacré plusieurs ouvrages à cette question-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une non-manipulation de quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est qu'un processus de séduction, un processus relationnel ? J'ai écrit plusieurs ouvrages sur le toucher. À partir de quel moment un toucher n'est pas effractant ? Hein, parce que Merleau-Ponty disait avant Rosa... Hein, Merleau-Ponty disait qu'il y avait le touchant et le toucher. Hein. Dès que je touche quelqu'un, hein, je suis à la fois touchant hein, et en même temps, je suis touché hein, et réciproquement. Donc, là, on est sur des problèmes. Alors, socialement, il faut qu'il y ait des frontières, sans problème. Mais après, ontologiquement, hein, cette question de rétablir une frontière dans le corps pose problème. Hein, parce que... Comment concrètement cela va se poser ? Autant il est nécessaire et juste de dire qu'il faut dénoncer ces corps sans frontières, autant la question de savoir, c'est une fois que j'ai fait ça, moi par exemple en tant qu'homme, comment je fais ? Comment je fais pour avoir des relations qui respectent tous les critères ? Ça devient extrêmement compliqué. Donc je le fais, hein, je vous rassure, j'ai un guide, hein, je suis le guide. Voilà. Mais ça devient très compliqué. Il y a une grande interrogation dans la communauté masculine sur sa propre identité. Enfin, plein d'ouvrages paraissent sur la crise de l'identité. Oui, non, mais c'est bien sûr. Mais je veux dire, la question, c'est que... C'est comme c'était une très bonne chose qu'il y ait beaucoup de livres aussi sur l'identité féminine. Mais après, la question, c'est dans la frontière, c'est la question de l'interrelation, de comment ça va se passer, comment on négocie ça. Alors, Quelques mots sur un autre type d'absence de frontières, c'est Fukushima. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de réinstaller à Fukushima, hein, sur les terres mêmes de Fukushima, des personnes hein, qui habitaient hein, dans la région de Fukushima en leur disant « Vous inquiétez pas les gars, tout va bien. Il y a un taux de radioactivité, bon. » On ne va pas chipoter. Hein, je veux dire, bon, on est au-dessus des normes, mais bon, bon an, mal an, vous pouvez rentrer chez vous. Hein, c'est-à-dire que là, on est confronté avec, avec Tchernobyl, avec Fukushima, avec, avec tous les accidents industriels que l'on connaît. Hein, on est confronté à tout un tas de pathologies où là, la question de la restauration de la frontière est quasiment impossible. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... on peut interdire des territoires, d'accord, mais comment on va arrêter comment on arrête un tsunami, comment on arrête la radioactivité, comment on arrête une contamination, etc. On l'a vu avec le virus d'Ebola, hein, c'est-à-dire à tous les problèmes de reconquête, hein, de zonage. Hein, voilà. Donc là, on est vraiment au Japon. Moi, je vais souvent au Japon. On est vraiment, les jeunes Japonais sont très inquiets hein, pour l'avenir du territoire, parce que c'est que le début. Hein, quand vous regardez ce qui est en train de se passer au plan sismique, on voit qu'on est sur ces mêmes enjeux. Voilà, par exemple, une photo qui parle d'elle-même. D'accord ? Là, c'est l'impact de radioactivité après Fukushima. Donc celle-là, vous ne l'avez pas beaucoup vue. Hein. Je veux dire... On ne l'a pas montré à la télévision à 20h. Hein? Parce que, hein, bon, c'est comme quand, vous savez, le nuage de Tchernobyl s'est arrêté à la frontière franco-française. Il y a quand même un mec qui est venu nous le dire à la télévision. Hein? Dites ça à nos amis. Hein? On a plein d'amis qui ont fait des cancers hein, de la thyroïde en pagaille. Hein? Voilà. Ça, ce n'est pas possible. Le concept de frontière est remis en cause hein, par la technique. Hein, je veux dire, sur ce point, je veux dire, les travaux de Günther Enders, hein, de Günther Enders sont définitifs sur cette question-là. C'est-à-dire qu'on peut pas... voilà, il faut repenser les choses différemment en termes de réseau, de zone, d'expansion, etc. Voilà, hein. Le réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'en 2050, la mer va arriver là, quoi. Ouais, c'est-à-dire que toutes les côtes françaises, là, vous les voyez, elles vont être dévorées. On fait comme s'il ne se passait rien. Ouais, c'est-à-dire, voilà, et certaines îles, hein, comme la fameuse île de Tuvalu, hein, va être entièrement recouverte. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la frontière ? C'est la terre ou c'est la mer ? Oui, c'est quoi la frontière ? C'est le rivage. Voilà, là, il y a des vrais questionnements à se poser. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être propriétaire ? Je suis propriétaire de la terre, je suis propriétaire de... les gars qui habitent à Tuvalu, une fois que la mer sera passée dessus, ça veut dire qu'ils n'auront plus de territoire. Donc là, il y a toute une redéfinition à avoir hein, sur qu'est-ce que c'est que cette frontière. Voilà, donc j'ai abordé ça dans deux ouvrages, donc notamment « Se fondre dans la nature hein, », qui pose la question de jusqu'où est-ce que je vais aller pour me fondre dans la nature, pour disparaître, hein, pour faire corps avec la nature. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de personnes, on se souvient tous hein, de ce jeune étudiant hein, qui est mort en Alaska. Voilà, il est mort en Alaska parce que finalement, il n'était pas préparé. Hein, il n'était pas préparé à son aventure, hein, c'est-à-dire qu'il est mort en mangeant des herbes, hein, il s'est empoisonné. Et ce qui pose aussi la question des techniques du corps, hein, de l'incorporation, de la préparation. C'est-à-dire si vous changez de milieu, si vous changez de climat, si vous changez de technique, ben, il va falloir changer hein, fondamentalement d'apprendre les nouvelles techniques. Hein, pour s'écologiser, parce que sinon, il vaut mieux rester calfeutré chez vous. Hein, ça, c'est sûr. Alors, un peu de concept. Donc depuis toujours, je travaille sur la frontière corporelle, hein, c'est-à-dire sur cette frontière-là. Hein, c'est-à-dire la frontière du corps vivant et du corps vécu. C'est-à-dire quand est-ce que commence le corps vivant, hein, quand est-ce que commence le corps vécu. Alors jusque-là, je m'en étais tiré parce que dans ma formation, on m'avait dit « Bernard, ne t'inquiète pas, avec la phénoménologie, ça va être génial, tu vas pouvoir tout analyser avec la conscience du corps vécu. Voilà. » Et puis après, j'allais au cours de primatologie, hein, et là, mon professeur de primatologie me disait « Bernard, arrête la phénoménologie. » Je veux dire, bon, nous qui travaillons sur les animaux, hein, nous allons t'apprendre que voilà, il y a voilà. Et puis après, j'allais au cours de neurosciences et on me disait bon, voilà, etc. C'est-à-dire, finalement, chacun disait c'est pas grave, hein, la frontière, nous, on la contrôle, on la maintient. Hein. Mais ce qui a changé ce qui a changé, c'est le questionnement. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté à plusieurs types de problèmes. Hein, c'est-à-dire que certains dualistes continuent à dire qu'il y a une complémentarité. Hein, c'est-à-dire qu'on va dire, ben, finalement, il y a la dimension du vécu, il y a la dimension du vivant, c'est complémentaire. Hein, on peut penser cette complémentarité, etc. D'autres vont dire c'est une juxtaposition. Hein, c'est une juxtaposition, c'est-à-dire finalement, c'est... Il n'y a pas tellement de relation entre les deux, mais on est obligé à faire avec. Hein, c'est-à-dire que le corps, c'est une juxtaposition de deux éléments. Hein. Et alors nous, en fait, on n'a pas choisi le questionnement le plus facile parce que nous, on travaille sur l'interface. Hein, c'est-à-dire que nous, on travaille sur A inter B. Alors je ne vais pas vous refaire une théorie des ensembles à une heure aussi tardive, hein, mais un des grands problèmes de frontière que pose le modèle A inter B, hein, c'est le problème du complémentaire. Hein, c'est-à-dire, A inter B, je vois bien ce que c'est. Hein, mais qu'est-ce qui va relever spécifiquement du complémentaire de B et qu'est-ce qui va relever spécifiquement du complémentaire de A, hein? Et c'est là que commence la dispute aujourd'hui. Hein? Par exemple, je rappelle que c'est Stanislas Dehaene, hein, qui est président hein, du Conseil national de l'éducation, je crois, comment ça s'appelle ça. Voilà, bon, c'est quand même un gars qui fait des neurosciences. Voilà. Donc, et qui nous dit dans son livre Apprendre, hein, que je lis le soir pour m'endormir, à la veillée, que. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma thèse sur la neurophilosophie, je suis allé voir Jean-Pierre Changeux au Collège de France. Il m'a dit mais Andrieux, il faut arrêter de faire de la philosophie. Et je lui dis à quoi ça sert? Vous intéressez à la question de la conscience? Venez à mon cours. La question est réglée. Je veux dire, il n'y a pas de problème de la conscience. Hein, le problème de la conscience, c'est le cerveau. Voilà. Donc. Ok, bah écoutez, monsieur Changer, je m'excuse de vous avoir dérangé. Hein, je vais repartir. Voilà. Or, justement, dans le modèle de l'interface, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre le cerveau et la conscience. Voilà, c'est pas de réduire l'un à l'autre. Hein. C'est-à-dire, c'est d'être dans des modèles mixtes. Aujourd'hui, on est dans des modèles mixtes. Dans nos laboratoires, hein, dans mon laboratoire, on est en train de monter un laboratoire mixte. C'est-à-dire où je suis obligé de bosser avec des physios, avec des neuros, avec des sociaux, avec des psychos, avec des philosophes. Voilà. Et puis, on entreprend un objet, on essaie de travailler. Donc, c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu. Alors, bien sûr, je peux m'isoler, je peux travailler avec les philosophes hegeliens du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de problème. Je vais arriver à trouver un langage commun. Et on fera une communauté. De même, les neurosciences de l'apprentissage du langage. Voilà. Mais le véritable enjeu interdisciplinaire, c'est celui-là. Et il n'est pas facile. Hein, pas facile. Alors moi, je l'ai abordé à travers deux exemples, hein, que je voulais vous rappeler. Premier exemple, j'étais jeune chargé de cours à Bordeaux, hein, en licence de travail social. C'était en 80... Est-ce que mon fils était né ? 95, 96. Il y a des étudiantes qui sont venues me voir pour faire leur mémoire et qui m'ont dit, voilà, on a un problème, on a des handicapés mentales, trisomie 21, elles ont toutes été opérées de l'appendicite. Et toutes, sur leur fiche, il y a marqué opérées de l'appendicite, mais nous, on pense que ce n'est pas une opération de l'appendicite. Oui, c'était de la stérilisation. Alors, on a porté le PET, je vous rassure, les noms ont été cachés, etc. Et on a déclenché une enquête de l'IGAS au bout du compte. Hein, et au bout du compte, on nous a dit, mais non, mais... il n'y a pas de problème, c'est quelques cas particuliers. Voilà. Mais finalement, quel était le problème qui était derrière ? Hein, c'est la question de la sexualité, hein, des femmes handicapées mentales, et la question de la contraception des femmes handicapées mentales, et la question de l'accouchement des femmes handicapées mentales, la question de l'éducation des enfants de ces femmes. Hein, voilà. Donc là, vous avez vraiment un problème, hein, qui, lorsque vous êtes confronté à la question du vivant et à la question de la gestion du vivant, hein, par les associations, hein, qui faisaient sans doute ce qu'elles pouvaient, les parents, qui font aussi sans doute aussi ce qu'ils peuvent, posent la question de la stérilisation. Hein. Autre exemple sur lequel j'ai travaillé, qui est la question des prématurés. Hein, il se trouve que je suis moi-même prématuré, hein, et que là, je me suis interrogé à savoir comment j'avais réussi à survivre au milieu des années 60. Et Alexandre Mikoski, hein, m'a confié ses archives, hein, sur le fonctionnement du premier laboratoire des prématurés qu'il a créé à Port-Royal, hein, en 1942, 1945, etc., et en 1947 surtout. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de ça ? C'est que le prématuré, c'est une invention. Ça n'existait pas avant 1947 en France. C'est-à-dire le prématuré n'avait pas de clinique, il n'y avait pas de psychologie des prématurés, il n'y avait pas de physiologie des prématurés, etc. Et que donc, on a créé les conditions d'une interrogation sur qu'est-ce que c'est que le vivable, voire qu'est-ce que c'est que le viable. Aujourd'hui, je vous recommande de retourner à Port-Royal et de regarder le poids des enfants qui naissent à Port-Royal. Moi, j'étais en couveuse parce que j'étais en dessous de 3 kilos. Quand j'en ai parlé à Mikoski, il a éclaté de rire. Il a dit, mon pauvre ami, c'était grave, effectivement. Ouais. Bon, aujourd'hui, on descend avec des enfants qui sont en dessous de 900 grammes, hein, voire même plus bas. Hein. Donc, vous voyez que la question de cette relation au corps vivant, hein, comment finalement, soit on va la nier, soit on va la produire, hein, et qu'on va produire autour une clinique, hein, etc. C'est une question tout à fait intéressante parce que ça pose la question de la frontière. Jusqu'où est-ce que je vais reculer la frontière du prématuré ? Aujourd'hui, on produit des prématurés qui sont handicapés lourds. Hein. Attention, c'est pas, quand ils sortent, ils ne vont pas récupérer. Hein, ils vont pas récupérer. De même, aujourd'hui, la question de la contraception, voilà, les quelques grandes associations ont pris en main la question. Et je veux dire, elle est loin d'être réglée, hein, vu les colloques qu'on a fait après. Autre question, le Alzheimer. Hein, autre question fondamentale. Voilà une question qui vient articuler la question du corps vivant et du corps vécu. Hein, parce que là, on a une modification. On a une modification du corps vivant, point, à tel point qu'elle vient altérer la perception que le sujet a de lui-même. Hein, et la conscience qu'il a lui-même. Je vous renvoie au livre hein, de Michel Chevrin, hein, qui raconte la maladie Alzheimer de sa propre femme, hein, Michel Malherbe. Donc, Béatrice Guret, qui était chez Finkielkraut samedi, et qui raconte aussi la modification de la conscience. Donc ça, c'est vraiment un thème, aujourd'hui, le thème de la perte de conscience de soi. Hein, c'est un terme qui a l'articulation des thématiques. Hein, c'est-à-dire que des questions qu'on n'abordait pas forcément directement autrefois et qui nous obligent à avoir une approche qui n'est pas simplement, biologique. Donc nous, avec nos doctorants, on a essayé de modéliser un peu ça. En disant finalement ce qu'on va essayer d'articuler, c'est plusieurs niveaux. Hein, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout ce qui se passe, à tout ce qui se passe en dessous hein, du seuil de conscience. Donc il faut reconnaître qu'il y a une activité du corps vivant, une activité cérébrale en dessous. Il y a la sphère du corps vécu et il y a aussi la sphère du corps décrit. Hein, et que méthodologiquement, on va essayer dans nos dispositifs, d'observer ces trois choses. Voilà. En reconnaissant qu'il y a des discontinuités dans les formes de description, dans les méthodologies. Non pas pour avoir une vue complète et synoptique, mais pour avoir plusieurs points de vue hein, sur un phénomène. Alors, ce n'est pas toujours facile, hein, parce que, bien, surtout sur la question En SHS. Hein, parce que, bien évidemment, quand tu es médecin, que tu as une IRM à disposition ou que tu as du matériel, hein, que tu peux vraiment travailler sur le fond avec du matériel, tu peux arriver à visualiser ça. Mais nous, en SHS, voilà, on prend de plus en plus des protocoles pluridisciplinaires pour essayer voilà, de recueillir le data in vivo et puis de le comparer avec ce que le sujet en dit. Hein, pour voir cet écart hein, finalement entre la perception hein, et l'activité réelle du corps. Donc c'est ce que je développe dans le... C'était un titre un peu ironique, hein. Sentir son corps vivant. Comment est-ce qu'on pourrait sentir son corps vivant? Je veux dire, on ne sent pas le corps vivant, on sent le corps qui est déjà vécu. Hein. C'est le vivant qui arrive au vécu. Hein, donc sentir son corps vivant, ça voudrait dire qu'on pourrait communiquer avec son vivant, que le vivant nous informerait. Enfin voilà. Donc là, tous ces problèmes philosophiques qui avaient été abordés par Carnap, Popper, Fegel, voilà tout, Wittgenstein, hein, tous ces gens-là ont réfléchi avant nous au sein du physicalisme hein, sur le problème des différences de degrés. Et enfin, une petite photo sympathique pour terminer, hein, qui est la question du handicap. Et c'est une photo exceptionnelle au Brésil. Hein. Parce qu'au Brésil, vous voyez très très peu ça. Hein. C'est-à-dire, au Brésil, des personnes handicapées hein, en bikini, transportées dans des fauteuils spéciaux hein, sur des plages, c'est une révolution. Hein. Voilà, c'est une révolution. Parce que, bien évidemment, on n'a pas forcément la culture qu'on a chez nous. Hein. Chez nous, on a labellisé des plages. Hein, accès encore, c'est pas généralisé. Mais là, voilà, les étudiants de STAPS de Natal, hein, dans le nord-est du Brésil, hein, qui proposent ce type d'activité. Et ça, voilà, ça fait partie de cette démarche d'écologie corporelle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de proposer des activités immersives, des changements de milieu. Pour que les personnes puissent avoir d'autres activités avec leur propre corps, d'autres ressentis, pour avoir bien sûr un sentiment d'autonomie, mais aussi d'autres sensations. Je parle trop, hein, c'est ça? Parce que je suis qu'à la moitié, là. Donc, on a appelé ça, vous trouverez le livre, un livre qui résume un peu toutes nos conceptions sur le handicap, s'appelle « Le corps capacitaire ». Donc c'est avec ma doctorante Aline Pintan, on a trouvé ce terme de capacitaire. On ne savait pas très bien ce que ça voulait dire au départ. En fait, c'est un peu ça en philosophie. Hein. On invente des concepts et après, on passe 10 ans à essayer de les définir. Hein. Alors on dit, oui, capacitaire, c'est pas mal. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment une capacité. Ce n'est pas un truc qu'on avait déjà. Hein. Et c'est pas un truc qu'on a au passé, hein, capacité. Et c'est en même temps, c'est capacitant, c'est-à-dire... Ça te permet d'acquérir quelque chose qui a été éveillé dans le cours d'une expérience. Hein, voilà. En même temps, ce n'est pas la panacée. Hein, c'est-à-dire que c'est une performativité. C'est à l'occasion d'une expérience que tu peux arriver à faire ça. Et puis, donc, on a fait ça aussi avec les malades. Hein, et Ruyen Augien, petit hommage à Ruyen hein, qui vient de disparaître. Donc, c'est le dernier livre hein, de Ruyen qui vient de ressortir en poche. Et donc je lui avais envoyé malade encore vivant hein, au moment où il était lui-même hein, donc il m'avait envoyé son livre avec une petite dédicace. Il a toujours suivi notre travail, mais lui dans ce livre, il faut vraiment que vous lisiez ce livre qui est tout à fait extraordinaire. Et il essaie de déconstruire hein, justement ce rapport au corps vivant pour pas se laisser aveugler justement par le caractère de la confrontation au vivant. Et finalement, je pense qu'il était assez opposé hein, à ce que je raconte. C'est-à-dire que lui, il reste dans une position assez distante. Alors que nous, ce qui nous intéressait, c'est que la maladie est l'occasion, une des occasions, c'est ce que j'avais démontré avec Proust, c'est une des occasions justement pour le sujet d'arriver à avoir un contact avec quelque chose d'un corps inconnu, hein, dont il n'avait pas encore fait le tour, et qui va lui permettre, justement, d'où le titre « Malade encore vivant », c'est-à-dire qu'il faut considérer que le malade, il est encore plus vivant qu'il n'est malade. hein, parce que justement, il est confronté à la vivacité. Hein, je suis en train de finir un livre sur la vivacité. Il est confronté à cette vivacité du vivant encore de manière plus vive. Et je ne suis pas sûr que Ruben aurait été d'accord. Troisième point, ça va ? J'ai encore 3 minutes, c'est ça ? Alors donc, toutes les diapos suivantes. L'hybridation. Alors on s'est beaucoup intéressé à l'hybridation parce que l'hybridation pour moi est un projet de refrontalisation. Alors je m'excuse auprès des grands littéraires et linguistes de la salle, refrontaliser n'existe pas. Donc j'ai inventé ça, je ne sais pas si c'est correct. En tout cas l'idée c'est que le corps inventé, le post-humanisme, le transfrontière, le transhumain, c'est un moyen pour essayer justement de penser un corps multifonctionnel. Hein, c'est-à-dire un corps qui, bien sûr, va être augmenté, mais va permettre d'agir sur plusieurs domaines. La motricité, les apprentissages, la performance, mais aussi la question de la santé. Et on vient de sortir un livre. Hein, donc vous voyez, là, je me suis battu. Ça a l'air de rien de faire cette couverture, mais on s'est battu, 2 ans avec l'Harmattan hein, pour qu'ils acceptent de mettre cette photo. Alors que les patients étaient d'accord. C'est avec le service du professeur Pomard d'Estruo et Vigarios à Toulouse, qui sont spécialistes de la prothèse silicone de la face, après le cancer de la face. Et donc, comme j'avais sorti en 2008 Devenir hybride, on avait décidé de faire quelque chose sur les visages hybrides, c'est-à-dire des visages de patients, justement, qui vont se reconfigurer. Ils ne vont pas être guéris, mais on va leur donner une prothèse de la face pour pouvoir se resocialiser. Hein, ils ont accepté de poser dans ce livre avec leur handicap, et avec leurs blessures, leurs maladies, mais aussi avec le masque. Et donc ça, c'est super intéressant parce que là, on est vraiment au cœur de la question de la mixité entre le corps vivant, hein, le corps vécu, le corps augmenté, hein, dans un état, effectivement, que moi, j'appelle hybride. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas quelqu'un d'handicapé, là, c'est quelqu'un qui s'est hybridé, qui a la technique, va permettre d'accéder à un autre niveau d'existence. Donc, je n'ai pas le temps, parce que je vois la pression monter, d'expliquer ces différentes catégories. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est bien cette catégorie-là, hein, c'est les hybrides, c'est-à-dire une éthique de la mixité, hein, du mélange bioculturel, avec un sujet qui a plusieurs identités multiples. Hein, même si, bien évidemment, d'autres techniques peuvent aussi participer de ça. Alors, dans Corps Capacitaire, vous trouverez aussi un chapitre très, très intéressant, enfin, qui m'a beaucoup intéressé, sur les Brain Interface Machines. Un jour, mes collègues m'appellent en disant « Bernard, on va t'offrir un chapitre en anglais dans un grand ouvrage scientifique chez Dewey, chez Willy, excuse-moi. » Et là, j'ai dit « C'est un gag. » Oui, alors c'est sur les Brain Interface Machines. Mais en fait, ce qu'on voudrait, c'est que tu nous expliques ça. Le vécu de cette personne, d'accord ? Quand, avec ses implants, ici, elle peut faire bouger le bras artificiel pour boire dans sa bouteille. Qu'est-ce qu'elle en dit, hein ? Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de films de laboratoire qui existaient. Où il s'exprimait sur le BMI, hein, sur le Brain Interface Machine. Et donc ça, c'est super intéressant de s'intéresser sur les modifications que cela provoque sur l'image du corps, la socialisation, le sentiment d'autonomie, la télémotricité. Hein, voilà, même si c'est pas généralisé. Et puis, bien évidemment, de Mélenchon à Claude François. La question de l'hybridation est très intéressante puisque finalement on va pouvoir, grâce au hologramme, on va pouvoir se démultiplier, avoir une présence hybride. C'est aussi, on l'a vu tout à l'heure, la question de l'avatar. Je termine. J'ai droit. Je termine. Justement, il ne faut pas s'éterniser. Il ne faut pas s'éterniser. Donc ça, c'est une question que je me pose en ce moment, c'est faut-il que je m'éternise ? C'est-à-dire, faut-il que cette conférence dure ? hein, plus sérieusement, hein, vivre plus longtemps, dans meilleures conditions, ok, mais à quel prix, hein? Alors, on y a réfléchi dans le sport, hein, avec nos collègues, 80 collègues, on a réfléchi sur la question de l'éthique, et notamment la question du dopage. Hein, c'est-à-dire, faut-il développer, hein, le dopage? Faut-il, ça c'est le petit livre qui est sorti sur Rester Beau, comme Anne Behr, hein, faut-il décider finalement de choisir plutôt la mort, parce que finalement le corps vivant est tellement irrémédiablement non viable, hein, que le vécu va pouvoir décider, hein, de sa propre mort. Voilà. Ou faut-il, voilà, faut-il... Et ça, c'est une réflexion qu'on est en train de développer avec nos étudiants sur les EHPAD. Hein, faut-il équiper les EHPAD d'un certain nombre de technologies, hein, qui justement vont faire découvrir aux personnes âgées, souvent grabataires et très dépendantes, eh bien, des techniques qui vont leur permettre d'avoir une télémotricité ou en tout cas d'avoir une activité virtuelle. Et là se pose la question de l'introduction des casques virtuels, du monde virtuel, des poupées. Hein, vous avez vu ces petits robots d'accompagnement, hein, consolateurs. Hein, là se posent d'énormes problèmes, hein, sur ces enjeux-là. Je m'arrête parce que j'ai débordé. Voilà, donc je suis désolé de ne pas avoir répondu à la commande, hein, et de ne pas avoir délimité les frontières, mais je voulais vous rendre sensible à la difficulté que nous avons aujourd'hui à délimiter beaucoup de frontières, et que c'est ça qui fait tout l'intérêt de l'époque. Et que je me méfie beaucoup de gens qui voudraient nous fixer absolument des frontières sans forcément penser la complexité de chaque cas particulier. Donc je suis désolé de ne pas avoir été trop précis.
Surtout pour avoir un temps de questions. Merci beaucoup pour cette conférence. Je propose qu'on commence les échanges dans un temps un peu limité, donc c'est-à-dire réponse plus concise. Qui se lance ?
Bon, merci beaucoup. J'aurais énormément de questions, puisqu'en fait, chaque cas particulier évoqué pose un ensemble de questions. Il y a aussi des éléments possibles de désaccord, mais qui ne seraient pas scientifiques, qui seraient plus idéologiques. Nous avons tous nos points aveugles. Je pense à des remarques sur les souffrances de la masculinité contemporaine ou des choses comme ça. Mais ma question ne portera pas là-dessus. Elle portera plutôt sur quel serait le facteur commun, la problématique commune à l'ensemble de ces choses, de ces objets d'études où le corps intervient. Je me suis interrogé par exemple sur la notion de nature, peut-être. C'est peut-être ça qui pourrait être un point commun, corps construit, corps naturel, etc. Mais je n'en sais rien. Tu as peut-être une autre possibilité de synthèse, un fil directeur, quoi, entre ces différentes...
En fait, j'ai fait exprès de ne pas mettre de fil directeur. Hein. J'en ai des fils directeurs, mais si tu veux, le fil directeur de ma recherche, c'est l'articulation du corps vivant et du corps vécu. C'est-à-dire, c'est d'être dans l'entre-deux de cette. Pour moi, il n'y a pas de délimitation. C'est un peu le problème qu'on a au plan ontologique, mais aussi au plan méthodologique. C'est que, si tu veux, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qu'on a appelé le corps naturel n'est pas si naturel que ça, qu'il est déjà préconstruit culturellement. Dès sa conception, in utero, etc. etc. De même que ce qu'on appelait le corps vécu n'est jamais totalement séparé de l'influence du corps vivant. Voilà. Donc, en 2006, quand je définissais le corps, dans le dictionnaire du corps, j'avais appelé ça le corps est bioculturel. Et donc, tous les culturalistes m'étaient tombés dessus en disant, mais non, le corps est culturel. Et tous les naturalistes m'ont dit, mais non, le corps est naturel. Donc, moi, je pense fondamentalement voilà, que le point commun de tout ça, c'est que le corps est bioculturel et que c'est ça qui fait le problème. Après, effectivement, idéologiquement, et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai peut-être dit des conneries, je m'en excuse, mais je prends peu de positions idéologiques et morales sur les débats parce que, petit 1, je ne sais pas qui est vraiment à raison. Et petit 2, pour moi, les problèmes sont forcément mixtes, complexes, et voilà, et qu'il faudrait les décrire par plus. Et si j'ai été maladroit, je m'en excuse. Mais c'est plus par dans le commentaire que sur le fond.
Donc, ce serait la dernière image avec l'intersection.
Oui, c'est ça. C'est l'interface. L'interface. Moi, je pense que des grands. Si tu veux, si la question de la frontière est si vive, c'est parce qu'aujourd'hui, on est dans l'interface. Et que les gens veulent réduire cette interface, c'est insupportable, l'interface. Ça oblige à la mixité, au métissage. C'est très difficile à supporter.
Oui, donc, alors, merci pour la conférence, donc, qui est très riche. Je me contenterai juste de deux questions ou deux interrogations. C'est un petit peu c'est de la taille d'une petite épingle, voilà, pas plus. La première question, c'est, pour renvoyer un petit peu au corps des terroristes, c'est le livre récent de Jean Birbaume sur le corps des djihadistes, et du coup qui est assez intéressant parce qu'il y a à la fois le corps vivant qui existe, il y a le corps de propagande, puisque dans les discours qui est dit, il faut montrer que c'est un super corps et un super homme, et en même temps il y a aussi le corps virtuel, celui de la propagande par internet, et dans ce cas-là, évidemment, les différents observateurs disent que le combat est gagné par les djihadistes qui arrivent à ce moment-là donc à offrir à toute une communauté ou tout un ensemble donc un corps particulier, voilà, qui a dépassé les frontières, puisqu'évidemment il peut circuler donc librement. Et ma deuxième question ou deuxième observation tout de suite, c'est le corps qui serait plutôt le corps contraint, qui ne peut pas passer les frontières. C'est le corps qui, lui, serait donc enfermé dans différents donc, établissements, quel que soit cet établissement. Et du coup, dans cette différente grille de lecture, où est-ce que ce corps pourrait prendre place, puisqu'il n'est pas dans la possibilité, évidemment, la frontière n'est pas poreuse, il est forcément contenu et il n'y a pas d'autre possibilité, voilà, d'aller faire une transhumance ou de vagabonder.
Dans la première question, moi, ce qui m'a intéressé dans le corps du terroriste, c'est la façon dont ils utilisent leur corps physique. C'est-à-dire que c'est pas. Après, tout a déjà été, comme tu dis, il y a plein de gens qui ont déjà écrit des choses 25 fois supérieures à ce que je fais. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire avec leur corps une fois qu'ils étaient endoctrinés et qu'ils vont agir et qu'à ce moment-là, ils vont passer à l'acte. Et là, c'est super intéressant à analyser en termes de vitesse d'action, de violence, de négation du corps d'autrui, etc. Là, il y a des descriptions assez terribles. Et comment on en arrive là ? Voilà, comment on en arrive là à pouvoir produire ça par rapport à notre lenteur, à notre manque de réaction ? Parce que nous, au contraire, on a des corps extrêmement lents, civilisés, polis, etc. Et que donc là, on est confronté à deux. On a toujours cherché à nier cette. On veut la réduire en permanence, cette façon d'utiliser le corps physique. Et après, sur le deuxième point, eh bien, c'est justement cette assignation, assignation, identification, qui consiste à maintenir ces corps dans des lieux d'enfermement, dans le but justement d'empêcher l'hybridation, le métissage, la migration, etc. Donc c'est un processus réductionniste qui est mis en place, qui empêche effectivement ces corps de pouvoir. Alors après, on va pouvoir d'autant plus agir sur eux qu'on les aura contenus dans des institutions, dans des mécanismes, etc. C'est ça le but. C'est la question de l'enfermement, c'est pas à toi que je vais l'expliquer. L'objectif, c'est qu'une fois qu'ils sont enfermés, je peux agir dessus. Mais c'est pour ça qu'on fait ça, non ? C'est pour les empêcher de muter, de changer, d'aller vers les autres.
Est-ce que vous avez déjà pensé à l'étude des personnes endormies au moment de l'opération, d'une opération chirurgicale ?
Non, pas encore.
Parce que ça me semble particulièrement intéressant dans le sens où le corps vivant est celui qui est le plus présent, puisque le corps vécu ne peut pas le corps vécu peut sans doute avoir un certain contact, mais ça ne passe pas par la conscience,
ouais,
justement.
Tout à fait, ouais.
Donc ça me semblerait intéressant.
Dans le livre de Philippe Lançon, il raconte ça assez longuement. Lanson en parle beaucoup dans son livre cette phase justement. Il y a aussi d'autres dans Le Malade encore vivant. Vous trouverez, j'ai trouvé beaucoup de verbatim, notamment dans le livre de Boris Razon. Dans le livre de Boris Razon, qui est un journaliste qui est resté en salle d'éveil pendant très longtemps, dans un état, il y a aussi le livre de Rosset, qui s'appelle le philosophe Rosset, qui vient de mourir, qui s'appelle Coma, où il raconte à la fois les rêves qu'il a eus pendant qu'il était dans le coma, parce qu'il prenait des notes à son réveil, et aussi la phase d'éveil. Donc, il y a toute une littérature que j'ai commencé à explorer sur ça. Mais c'est vrai qu'en soi-même, c'est un thème.
Je vais revenir vous taquiner un petit peu aussi sur la question de la masculinité.
D'accord, voilà, j'ai dû dire un certain nombre de conneries. Alors,
non, c'est pas du tout... En fait, c'est pas tellement sur le fond, plus sur la démarche, parce que... je suis très sensible à l'approche épistémologique dans tout ce que vous avez présenté. Il me semble que là, il y a une question justement de moi que je nommerais épistémologique. C'est-à-dire oui. Que, en fait, la masculinité telle qu'on la questionne aujourd'hui, c'est finalement l'expérience qu'on peut en faire. Mais tout en gardant à l'esprit que le défi, c'est de rester aussi conscient que possible de ce qui est en train de se vivre, s'échanger, arriver à la présence. Il me semble justement que c'était intéressant, je sais pas si plusieurs fois dans votre exposé, en fait, vous reveniez, à mon avis, une posture plutôt, peut-être par exemple, de sociologue que vous décriez plus ou moins à différents endroits de votre... Et il me semble, moi, en fait... Dans la question épistémologique, la question de l'accès à la conscience, du rapport à la conscience en tant que chercheur, me semble clé. Et je suis sûr que vous avez déjà voyagé dans ces lieux-là, votre exposé le montre. Donc voilà, c'est pour ça que je me dis que je me permets de vous taquiner, mais parce que j'espère une réponse un peu éclairante pour moi, en fait.
comment je vais vous répondre on répond à un ouvrage par un autre ouvrage. Et en fait, je disais à Frédéric, qui va publier des ouvrages énormes sur le corps et la bande dessinée, que je me suis intéressé à un livre qui va s'appeler BDSM, justement sur le transgenre masculin, notamment l'œuvre de Xavier Duvet. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est un des grands graphistes contemporains, et qui lui a fait une série de 15 ouvrages de BD sur la transformation du masculin. Dans la question du comment se démasculiniser et accepter cette démasculinisation vers un agenrement nouveau. Et là, il y a vraiment tout un travail, une réflexion qui est faite. Dans cette BD et puis dans d'autres, j'ai fait un corpus à peu près de 50 BD. Dans le monde entier, et qui pose justement cette question-là, c'est-à-dire que qu'est-ce que ça exigerait ? Alors c'est de la fiction, hein. C'est de la fiction. Qu'est-ce que ça exigerait pour un homme de faire un travail de conscience et un travail réel, physique, de pas simplement sur les représentations, mais aussi sur ses propres techniques corporelles. Sur la manière dont il utilise son corps, etc. Et moi, j'ai une approche assez matérielle de ça. C'est-à-dire que voilà, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la question des discours et des représentations, c'est à travers des pratiques, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir d'autres pratiques, sinon par un travail de comme fait Porno Terrorismo, avec la question du corps féminin justement, en disant finalement on peut utiliser le corps différemment, on peut avoir un autre rapport au corps, mais ça exige effectivement un nouvel apprentissage, une nouvelle technique, des façons de s'entraîner différemment, etc. Voilà, donc c'est abordé par les queers, par la littérature queer, on le trouve. Et aussi, c'est pour ça que je lis Godelier, tous les anthropologues, etc. C'est-à-dire qu'eux, ils l'ont abordé aussi dans les autres sociétés traditionnelles, où là, il y a des rituels de masculinisation et de démasculinisation qui sont mis en œuvre et qui sont très intéressants à étudier. pour montrer qu'en fait, c'est vraiment un problème culturel de la manière dont je vais avoir une conscience de mon propre corps interne, par exemple, ou de la forme, de différentes fonctions de mon corps. Donc voilà, moi j'ai plutôt une approche comme ça, donc je ne sais pas si c'est une réponse correcte, mais en tout cas c'est vers ça que je vais, c'est-à-dire vers l'idée que la question du genre pose la question de l'agencement. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que les gens sont prêts à déconstruire la question de la nature pour s'agenrer. Et quand ils s'agenrent, est-ce qu'ils font un choix simplement représentationnel pour être dans le groupe, là, ou est-ce que c'est un choix expérientiel? C'est-à-dire, est-ce quelque chose qu'ils ont vécu par expérience? Et si tu le vis par expérience, je l'ai vécu aussi par expérience, à ce moment-là, tu t'aperçois que tu as un autre corps, effectivement, que tu peux utiliser le corps différemment. Voilà. Mais c'est un peu, c'est pour ça que j'avais l'air ironique, mais c'est un peu pour moi le problème, si tu veux, de gens qui sont dans des pratiques de discours et pas dans des pratiques de faire. Or moi je m'intéresse essentiellement, tu verras dans les ouvrages, à des récits en première personne, des gens qui ont vécu des expériences, qui te racontent. Maintenant c'est toujours des récits, des constructions, des perceptions, voilà, c'est pas forcément la réalité, mais en tout cas, ça nous permet de... Et juste pour te dire juste une anecdote, quand j'ai présenté BDSM à la MSH de Paris, donc c'était sur les BD, hein, et il y avait des maîtres BDSM réels dans la salle qui sont intervenus en me disant « Attention, tu n'as pas le droit de parler de ça, parce que le BDSM réel, ce n'était pas du tout ce que je racontais. » C'est-à-dire, c'était des rapports beaucoup plus structurés de domination, etc. Or, justement, dans la fiction et dans la réflexion queer, les gens vont beaucoup plus loin dans la déconstruction que ce que ces gens-là qui étaient là ce jour-là racontaient de leur pratique. Donc, c'est aussi ça aussi. Je me méfie de comment on nous présente les choses au regard, en réalité, des nouveaux imaginaires.
Merci beaucoup pour toutes ces perspectives de réflexion sur les frontières du corps et cette journée. Également, je vous propose de continuer les échanges de façon informelle près du stand de La Belle Aventure. Je remercie Christine Drugman de sa présence et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à tous.